Bon, mes amis, on continue notre chemin par rapport à ce qu'on a déjà franchi comme étape hier. Ce matin, je vais essayer autant qu'il est possible de vous emmener vers mes chemins d'évangile. Enfin, il faudrait plutôt dire vers des chemins d'évangile, ça serait plus précis. Et je le ferai de la manière suivante. D'abord, en positionnant le problème ou la question, si vous voulez, des relations, des interactions qui existent entre le domaine spirituel et celui qui est psychologique. On est toujours affronté à ces questions-là et j'essaierai un petit peu d'éclaircir ce domaine pour entrer dans une approche de l'Évangile et, j'ai envie de dire, de la parole biblique, puisque j'aurai comme support deux textes, à la fois le psaume 21 et puis le Nicodème, qui me serviront d'appui. On sait tous que parce que nous sommes traversés par cela, qu'un chemin de foi et ce que nous sommes humainement arrive toujours, et c'est inévitable, et c'est bien comme ça, à se rencontrer, à s'affronter, et qu'il n'est jamais facile de démêler à la fois les articulations et les contradictions qu'il peut y avoir entre ces différents domaines, et que c'est petit à petit que quelque chose qui serait de l'ordre de l'unité intérieure peut se faire. Je vous dis ça parce que moi-même, depuis très longtemps, je suis traversé par ce double questionnement. Bénédictin, psychanalyste. Psychanalyste, bénédictin. Ça marche dans les deux sens et ça marche. Enfin, des fois, ça ne marche pas, d'ailleurs. Il faut reconnaître les choses. Mais, si vous voulez, c'est en fonction de cette traversée intérieure qui me constitue et qui est la mienne que j'essaye de partager avec vous sur ces questions. Bon, d'abord, il faut se dire que cette histoire-là, si vous voulez, elle est longue. C'est pas seulement maintenant que l'on en parle, Alors, je vais prendre comme ça quelques éléments d'histoire, parce que c'est toujours intéressant de se situer dans l'histoire. Vous avez saint Thomas qui dit, ça commence un peu raide, mais tant pis, qui dit « Dieu ne fait pas nombre avec les choses créées ». Ah ben voilà une façon de clarifier la question, voyez, de la clarifier ou de l'obscurcir d'ailleurs. Bien. Les mystiques maintenant. Je les ai évoqués rapidement hier, mais j'y reviens un peu. À les lire ou à les fréquenter, on pourrait penser qu'une démarche uniquement spirituelle serait capable de tout résoudre, au moins à travers les écrits qui nous sont parvenus jusqu'à nous. Puis on sait aussi, quand on regarde un peu leur propre histoire, eh bien, que c'était de fins psychologues et qu'ils en savaient quelque chose, pour dire vite, sur l'âme humaine. Plus tard, le siècle des Lumières, puis le scientisme du 19e, ont joué l'exclusion, la méfiance réciproque ou la critique systématique. Pour dire les choses un peu grossièrement, d'un côté il y avait Dieu et puis de l'autre il y avait le diable, le bien, le mal, le vrai, le faux, avec des querelles interminables qui figeaient chacun dans des positions intenables. Moi-même, j'ai encore entendu de la part de patients, des psys, ça se calme maintenant, mais qui récusaient tout langage croyant qui pouvait arriver dans la parole d'un patient, disant « non, c'est pas mon problème, débrouillez-vous avec ça ». Il faut attendre le 20e siècle pour apercevoir une confrontation entre ces deux domaines et une confrontation qui ne sera pas sans fécondité. Je situe là rapidement. Il y en a trois qui ont œuvré beaucoup pour poser ce problème et puis, je dirais, faire entrer ce questionnement de la psychanalyse principalement dans l'Église. Il s'agit de Marc Oraison, du père Bernard, le jésuite, et du dominicain Albert Play. Il y a longtemps, j'ai eu la chance, si on peut dire, de travailler avec eux, grâce à eux, et évidemment, ça m'a beaucoup aidé. L'histoire continue. Sans doute, vous n'êtes pas ignorant que bien des psychanalystes se sont emparés des écritures pour essayer d'en dénouer le sens, et pas seulement le sens religieux, mais le sens tout simplement humain, porteur de significations religieuses possibles. Alors bien sûr, il faut évoquer Dolto, Stein, Depreux, Balmary et bien d'autres. C'est-à-dire qu'à partir de leur pratique et à partir de leur lecture, eh bien, ils se permettent d'entendre des questions cruciales. C'est vrai aussi qu'on est passé par une époque, je ne suis pas sûr qu'elle soit complètement terminée, de confusion entre les domaines. Il y a des communautés nouvelles où certains thérapeutes qui se sont chargés, si vous voulez, de mélanger les questions, et pas toujours pour le profit de ceux qui avaient à faire leur chemin. Alors, en vous disant ça, vous voyez, je vous rappelle simplement quelques éléments de l'histoire pour dire que ça vient de loin et qu'il est bien normal de s'emparer encore aujourd'hui de cette question. Je laisse de côté, mais on pourrait y revenir, ce qui peut se passer à ce propos-là dans la rencontre analytique, quand on est soi-même pris dans cette aventure. Pour entrer davantage dans le sujet et dire ceci, que l'Évangile est certainement un texte, une parole qui peut nous faire aller de la dépendance, quelle qu'elle soit, à une rencontre en liberté, en vérité. L'Évangile vient sur nos routes humaines et ce n'est pas simplement un texte ou une parole fondamentale. Bien sûr, c'est ceci. Mais je prends, si vous voulez, l'Évangile comme une rencontre possible. Une rencontre qui est pleine de puissance et d'expérience, comme dit saint Paul, si le Christ vit en vous, par son esprit, vous vivrez. Romains 8, 13. Ou bien, au chapitre 6, au verset 1, il dit ceci aussi, « Considérez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Alors je m'appuie sur ces deux petites phrases, si vous voulez, pour dire que quand il s'agit d'Évangile, il s'agit fondamentalement, je force le trait, il s'agit plus d'une rencontre que d'un livre. Une rencontre avec quelqu'un qui a une énergie de vie incommensurable. Et si on suit, si vous voulez, cette perspective, on peut dire plusieurs choses à propos de cette rencontre. Des choses d'ailleurs qui peuvent très bien s'adapter par rapport à ce que nous vivons. C'est-à-dire que l'Évangile va d'abord être, de mon point de vue, j'ai envie de dire comme toute rencontre, un corps à corps. On trouve ça dans les textes même d'Évangile, hein. On l'a entendu tout à l'heure dans l'Évangile d'aujourd'hui. Mais Jésus, à d'autres moments, touche la fille de Jaïr. Il se laisse toucher par la femme hémorragique. Il pose les mains sur les yeux de l'aveugle. Et puis, tout le récit de la Passion est un dramatique corps à corps avec ses juges, ses bourreaux et lui-même. Voilà ce que je voudrais dire déjà. Pour chacun de nous, dans notre démarche spirituelle, le contact à l'Évangile est analogue à une rencontre Et ça commence toujours d'une certaine façon par un corps à corps. Et ce corps à corps, c'est une bonne nouvelle pour des gens bien différents. Encore l'évangile d'aujourd'hui, hein, il s'agit des disciples, de la belle-mère de Pierre, des malades, et qui sont là. Hein. Bonne nouvelle pour des gens bien différents, comme Lévi, le collecteur d'impôts, qui invite Jésus à sa table. Ben, il ne correspond pas, celui-là, au fou furieux du chapitre 5 de l'évangile de Marc, ou au vieux Nicodème, qu'on verra tout à l'heure, ou à la Samaritaine. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si vous voulez, cette rencontre, ce corps à corps, permet d'effectuer pour chacun des protagonistes un passage. C'est le deuxième terme, si vous voulez, que je me sers pour essayer de faire cette typologie évangélique de la rencontre. Un passage. Alors, un passage, bien évidemment, pour ceux qui sont en cause, mais en même temps pour Jésus lui-même, parce que c'est à travers les rencontres qui sont vécues qu'il va révéler quelque chose de sa personne, de son identité. On pourrait dire que Jésus prend l'humain à bras le corps pour le faire passer dans un autre univers. Et alors, si cette rencontre avec Jésus est un corps à corps et un passage vers du meilleur, il faut aussi dire que cela est du côté aussi de la surprise et de l'inattendu. Souvent, nos rencontres sont répétitives, sont habituelles. Eh bien, voilà qu'avec l'Évangile, eh bien, on s'aperçoit que ces rencontres, ou la rencontre avec le texte que l'on peut faire, elle est capable très souvent de nous surprendre, de nous déstabiliser, de nous déplacer. La difficulté qu'on a, bien évidemment, c'est qu'on connaît trop bien l'Évangile, souvent, et qu'on a en tête, je dirais, avant toute parole, les interprétations qui ont été apprises ou acquises. Et c'est important de se dire qu'il y a toujours du neuf à l'horizon d'une rencontre que l'on peut faire avec l'Évangile. De l'inattendu, de la surprise, pour une vie plus intense, pour une vie plus forte. Hein. Tout l'Évangile, comme toute rencontre, elle est voie, V-O-I-E, et chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, je prends volontairement l'Évangile, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète ici, pas seulement donc comme un livre, mais comme une rencontre à vivre, hein, c'est-à-dire quelque chose qui est au-delà du discours, du savoir, de la doctrine ou de la morale. Je n'exclus pas tout cela, mais je crois que ce n'est pas dans cette perspective que j'ai envie de me situer ce matin. Et alors, si l'Évangile est une rencontre, c'est tout l'humain qui est atteint. C'est tout l'humain dans sa globalité qui est concerné. Et on sait bien comment dans la vie quotidienne, la nôtre, eh bien, il y a des rencontres qui nous ont touchés de façon, j'ai envie de dire, définitive. Bon, on revoit ça dans l'Évangile. Ça veut dire que l'Évangile, comme rencontre, si vous voulez, eh bien, c'est une parole qui, d'une façon ou d'une autre, va toucher la totalité de notre être. Les aspects qui sont lumineux comme les aspects qui sont plus ténébreux. Et d'une certaine façon, lire l'évangile comme ça, donc comme une rencontre, si elle est vraie et profonde, cette rencontre, elle ouvre sur le mystère de l'être. Autrement dit, l'autre, qu'il s'agisse de Dieu ou de mon proche, ben, il restera toujours un mystère insondable, une réalité qui échappe toujours. C'est vrai. Mais en même temps, cette parole évangélique, cette rencontre évangélique ou cette voix christique, comme toutes nos rencontres humaines, nous laisse en face du mystère. Voyez, je viens simplement d'essayer de vous dire comment cette parole évangélique, analogue à nos rencontres, c'est du corps à corps, c'est un passage vers une vie bonne et neuve, c'est aussi quelque chose de l'ordre de la surprise, de l'ouverture vers l'inconnu, vers le mystère, et c'est un, on va le dire autrement, un chemin à risquer. Et prenant l'évangile de cette façon-là, à ce moment-là, eh bien, nous sommes comme appelés à plus de liberté, plus de créativité. Plus de liberté, plus de créativité pour devenir et redevenir un humain à la suite du Christ. Et alors j'emploie volontiers, quand j'essaye d'expliquer un peu donc que l'évangile est de l'ordre de la rencontre, j'essaye de dire à ma manière que la vie à la suite du Christ, la vie tout court, mais enfin, il s'agit là de la vie à la suite du Christ, c'est comme un poème à écrire. Et il n'y a que nous, que chacun de nous qui pouvons l'écrire. En toute liberté, avec les forces créatives qui sont les nôtres. Alors, c'est vrai hein, que le christianisme nous offre des récits, des rituels, des sacrements, des assemblées, mais tout ça, de mon point de vue, n'a qu'un but, c'est de nourrir ce poème de vie qui est en chacun de nous. D'une certaine façon, on en a fait, vous en avez fait l'expérience ici. On aurait pu dire, on récite un psaume et puis on lit l'évangile, quoi. Non, il n'y avait pas que ça ce matin. Il y a la lumière d'une bougie, il y a la clarté d'une icône, il y a la beauté d'un bouquet. C'est tout ça qui fait, si vous voulez, poème, qui nous fait entrer dans tout un univers symbolique hein, et qui fait qu'on peut petit à petit eh bien, se déplacer ou déplacer son humanité, si vous voulez, vers un univers symbolique qui va nous ouvrir à des significations que, sans doute, on n'attendait pas. Et alors, à l'appui, si vous voulez, de ce que j'essaye de vous dire là, eh bien, je vais utiliser deux textes. Je vous les passe là, vous les prenez là. C'est le psaume, comme ça, ça permet de ne pas chercher plus loin. Donc, il s'agit du psaume 22-21, là. Alors, si vous voulez, dans le premier, le psaume dont je vais parler, je le prends, si vous voulez, comme une invitation à rejoindre ce poème, si vous voulez, de notre vie. Donc, d'une certaine façon, en vous passant ces deux textes, essayons de les vivre comme une rencontre, telle que je viens de vous l'expliquer, et essayons de voir comment ces deux textes vont nous mettre en face de questions humaines cruciales. Alors, ce psaume, si vous voulez, qu'on peut, bien sûr, qu'on connaît, qu'on utilise souvent le vendredi saint. Je vais essayer d'en faire une approche. Tout le monde là? Ah, il en manque par là. J'espère qu'il y a assez de feuilles. Ça va?
Oui.
Je pense que c'était plus pour commodité, mais enfin, je fais le pari que c'est pas tout à fait inconnu. Hein. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit de quelqu'un, celui qui a écrit le psaume, quelqu'un qui est affronté à une question essentielle, qu'on pourrait résumer comme ça. Qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus rien? Oui, Dieu sait si ça peut nous arriver les uns et les autres. Ou qu'est-ce que l'espérance quand il n'y a plus rien à espérer? Donc, si vous voulez, on est au versant tragique de la vie. Et alors, vous remarquerez que dans un premier temps de ce psaume, de ce poème, Dieu se tait. Pourquoi m'as-tu abandonné? Le jour j'appelle et tu ne réponds pas. Alors, ce n'est pas seulement le silence de Dieu qui est au rendez-vous, mais c'est aussi les critiques des autres. Tous ceux qui me voient me raillent, ils ricanent, ils hochent la tête. Et alors, ce bonhomme du psaume qui est affronté à une désespérance absolue, eh bien, essaye de se raccrocher à son passé, à se rappeler des souvenirs des temps heureux. Nos pères comptaient sur toi. Tu m'as fait surgir du ventre de ma mère, tu m'as mis en sûreté entre tes bras. Mais il n'empêche que tout ça, si vous voulez, n'empêche pas cet homme d'être déchiré intérieurement par le silence de Dieu. Alors qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste qu'à durer et à être là, sans savoir ni comprendre. C'est le sens des premiers versets de ce psaume. On est en face d'une sorte de foi humaine, tragique, une espèce d'attitude de survie, si vous voulez, par rapport à un Dieu qui ne dit rien. Et les autres ne sont d'aucun recours, solitude absolue. Ils sont comme des lions rugissants, comme des chiens, comme une bande de malfaiteurs. Autrement dit, il n'y a personne pour desserrer les liens de la mort. Et il ne reste qu'à cet homme de poursuivre le poème tragique de sa vie en disant qu'il se disloque, que son cœur est pareil à de la cire qui fond dans ses entrailles et qu'il est dans la poussière de la mort. Tout est perdu, puisque la mort est là pour cet homme et que Dieu se tait. Et vous voyez, je trouve que ce poème est d'une actualité vertigineuse par rapport à certains moments dans lesquels on peut se trouver embarqué. Et alors, ce poème continue et cet homme crie, malgré tout, et malgré le silence de Dieu, « Toi, Seigneur, ma force, vite à mon aide, délivre et sauve. » Mais qu'est-ce qui lui prend de dire ça? Comment on peut imaginer ce renversement de perspective que nul ne pouvait prévoir, puisque Dieu se tait et que l'homme marche vers sa mort? C'est-à-dire, d'où vient cette espérance inattendue, ces quelques gouttes de vie qui vont se transformer à la fin en chant de louange. Je pense que c'est d'avoir été ainsi aux extrêmes de sa réalité que cet homme découvre un chemin, une voie, une porte vers la vie. Mais il n'y a pas d'explication rationnelle à ce basculement intérieur. Simplement, c'est là. C'est-à-dire qu'on n'est pas au niveau des explications, hein, ou du sens, on est dans ce basculement, si vous voulez, dans l'ordre du donner, de l'éprouver. Et de là, il y a de nouvelles fécondités de vie qui adviennent. C'est tout le sens des versets 23 à 32. Je vous ai mis le par rapport au psaume des différentes parties pour vous y repérer facilement. C'est-à-dire que dans ce basculement, il y a quelques gouttes de vie qui vont ensemencer le tragique de l'homme là où on ne l'attendait pas. Quelque chose d'inespéré. Quelque chose d'inespéré qui est toujours caché au cœur de nos histoires humaines et que tout homme, jusqu'au Christ, porte en lui, porte ce formidable pouvoir de faire de la vie avec la mort qui rôde et qui vient. Je prends ce psaume, si vous voulez, poème de vie, poème tragique, hein, comme un authentique chemin de vie spirituelle, qui consiste pas donc à adhérer, si vous voulez, seulement à une parole ou à des textes, hein, mais d'épouser au plus profond cette réalité de l'humain telle qu'elle se présente. Au fond, je prends ce psaume, si vous voulez, 21, comme, si vous voulez, une façon de consentir à la vie, même dans ses extrêmes. Hein. Et alors, partant de là, donc de ce psaume, parce que donc après, dans la fin du psaume, hein, vous remarquerez que l'homme raconte comment, avec tout ce qu'il a éprouvé, tout ce qu'il a supporté, ça le met à une place tout à fait particulière dans la communauté des croyants. Et ça se termine toujours par de la louange. Alors ça, c'est un... comment dire? C'est le génie de la conscience religieuse juive. Et c'est bien de pouvoir le dire juste à côté de la synagogue. C'est que pour le juif, si vous voulez, toute réalité humaine, même la plus tragique, est toujours porteuse d'une louange possible. Alors là, on a quelque chose à apprendre, je crois, de ce côté-là. Vous voyez ? Partant de ce psaume, si vous voulez, je crois qu'il y a comme trois choix qui s'imposent et qui peuvent donner souffle à cette vie qu'on appelle la vie spirituelle. Je les exprime de façon très, très rapide. D'abord, si on suit le psaume, si on en fait quelque chose, on s'aperçoit que fondamentalement, il s'agit de choisir la vérité et de sortir du mensonge. Cet homme, si vous voulez, dans son poème, ne se fait pas de cinéma. Hein. Il fait la vérité, il colle au réel de sa vie en faisant l'expérience que Dieu se tait et en assumant ce qu'il est et ce qu'il devient dans tous ses malheurs. C'est un premier choix, jamais facile. Hein? On a tellement de stratégies, chacun de nous, hein, pour échapper au réel. Bon, premier choix. Deuxième choix qui est exprimé dans ce psaume, qui est nécessaire, c'est celui de la vie pour sortir de la mort. Alors, l'homme du psaume, il choisit d'abord de se souvenir du temps où la vie était là. Et il ne reste pas là-dedans. Hein. Il arrive à se risquer à consentir une vie qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire une vie qui se développe malgré et au cœur de ses malheurs. Deuxième choix, fondamental et loin d'être facile. Dernier choix, il consiste à choisir la communication. Donc c'est toute la dernière partie du psaume sur la louange, pour sortir de l'isolement. Et donc toute la finale du psaume nous le dit à sa manière. Vous voyez, ce que j'essaye de vous faire sentir là, c'est comment toute vie, alors celle du le bonhomme du psaume, mais toute vie c'est la nôtre à chacun, toute vie peut devenir un poème. Et je pense que c'est dans cette mesure-là qu'on peut parler de vie spirituelle. Entendre, dans l'accompagnement, souvent, c'est quelque chose qu'on repère, dans l'accompagnement, essayer d'entendre ce qui fait poème dans l'existence de quelqu'un. Et que souvent, il n'emploiera pas ce mot-là. Mais ce qui fait poème, j'ai envie de dire, c'est ce sur quoi il s'appuie pour dire l'impossible, voyez. Donc je viens d'aller avec ce psaume, si vous voulez, du côté donc de cette vie que l'on peut écrire comme un poème. Nous avons tous en nous un poème qui se cherche à se dire. Et alors souvent, ça c'est un petit exercice facile, essayez de repérer par exemple les mots qui vous reviennent le plus souvent, dans le langage tout à fait ordinaire. Et c'est souvent un accès tout à fait intéressant pour voir ce poème intérieur qui nous habite. Je commençais tout à l'heure en vous disant que l'Évangile, c'est plus qu'un texte, c'est une rencontre. Alors, voilà, on va essayer de partir à la rencontre de ce Nicodème. Donc, je mis rapidement, oui.
Si j'ai bien compris, quand le psaume dit « Tu m'as répondu, Seigneur », en fait, c'est la personne qui a trouvé en elle-même un chemin.
Oui. Et qui s'appuie sur quelque chose qui était tout à fait inespéré, et qui est donné, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a là-dessous un certain rapport à l'espérance. L'espérance, ce n'est pas seulement un désir qui fait qu'on va se projeter dans l'avenir. L'espérance, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'inespéré, au cœur de ce qui nous arrive, voyez. Donc c'est cette notion-là qui est en dessous de ce que j'essayais là de dire par rapport au psaume. Alors Nicodème, il nous aide à comprendre peut-être ce qu'il en est de la rencontre. J'ai envie de dire de toutes nos rencontres, mais enfin de la rencontre avec le Christ, puisque c'est cela qui nous interpelle ce matin. Nicodème. Un notable, un fin connaisseur de la loi de son peuple. Et Jésus l'intrigue. Et il veut en avoir le cœur net. Mais il vient de nuit. L'obscur, qui est le prélude toujours à la venue du jour. Vous pouvez relire cette rencontre à l'aide de la petite typologie que je vous ai proposée précédemment. Il s'agit bien d'un corps à corps, il s'agit bien d'un passage, il s'agit bien d'une surprise, de l'inattendu, de l'inespéré. Alors, rude passage, bien sûr. Et toutes les certitudes de Nicodème vacillent. Et Jésus, on pourrait dire comme ça, dans cette rencontre, le mène de surprise en surprise avec ce dialogue tout à fait incroyable. « T'es vieux, il te faut naître d'en haut. » Bon, l'eau, l'esprit, le royaume, qui sont comme des réalités qui obligent Nicodème à se séparer des illusions de la loi pour naître, renaître, quitter les rives de son savoir, commencer de marcher sur un autre chemin. Un autre chemin où le vent souffle, où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Tu te croyais arrivé dans la vie ? Eh bien, commence, va, vis, et deviens, comme l'évoque très, très joliment un titre de film. Va, vis, et deviens. Alors, vous voyez comment Nicodème, qui était accroché à la loi, certainement un peu obsessionnel hein, de la loi, eh bien, il va d'un seul coup basculer dans un autre univers. Alors, il y a la symbolique de l'eau qui appelle à la vie, l'esprit qui pousse à un autre regard, la chair dont il est question, qui indique que la mort et les impasses qui lui sont attachées, il y a là, si vous voulez, comme très rapidement dit, trois lieux de combat tout à fait importants. Hein ? La vie, un autre regard, les forces de la mort, je prends ça comme des lieux de combat pour naître à nouveau. Et peut-être que ce n'est pas du tout éloigné hein, des situations que vous avez pu évoquer hier dans les groupes. Vous voyez comment, à travers ce texte, si vous voulez, à travers cette rencontre, c'est finalement notre existence qui est en cause, c'est-à-dire, au fond, est-ce qu'on se donne les moyens, est-ce que l'on consent à être en état de naissance ? Ou comme dit des fois Maurice Bellet, il dit « ce qui est important, c'est d'être naissant ». J'aime bien cette façon de voir. Et qu'il n'y a pas d'âge pour être naissant, pour devenir vivant, pour dire « je ». Vous voyez, j'emploie plusieurs vocabulaires pour approcher cette réalité qui sera toujours singulière. Chacun de nous, dans nos histoires, on peut sans doute se rappeler tel ou tel moment où on a été naissant. C'est-à-dire qu'à partir de là, eh bien, la vie a été autre, elle a été différente, elle a pris une autre saveur ou un autre goût. C'est dans ce sens-là, si vous voulez, qu'on peut dire que la rencontre de Nicodème, qui peut être un archétype hein, de nos rencontres, hein, eh bien, on peut la prendre comme un commencement, un passage. Et si on suit l'Évangile, vous remarquerez que ce commencement et ce passage, on le franchit toujours seul, parce que chacun a sa manière de commencer. Et peut-être que là, il faut se souvenir les uns et les autres de ces moments hein, où on s'est trouvé en état de commencement intérieur, j'entends. Et si on prend le risque de ses commencements, eh bien, Nicodème nous le montre, hein, mais on le sait aussi d'expérience, petit à petit, on se sépare de forces de mort qui pouvaient nous envahir ou nous étouffer. Jésus, il fait vibrer Nicodème au souffle d'une nouvelle vie de l'esprit. D'ailleurs, on retrouve dans l'Évangile hein, le même Nicodème, hein, quand par rapport à ses collègues, là, il va réagir et refuser de condamner Jésus sans l'avoir entendu. C'est au chapitre 7, verset 50. Et puis on le retrouve encore, Nicodème, au moment de la mise au tombeau de Jésus. Oui, c'est quand même un sacré personnage, enfin, pour éclairer ce qui peut en être de la suite de Jésus. Ah, on pourrait dire d'une certaine façon que nous sommes tous des Nicodèmes quand nous choisissons, malgré la mort, de naître à la vie. Peut-être pouvons-nous être donc des Nicodèmes, c'est-à-dire faire et refaire sans cesse, hein, ce travail de vérité, naître d'en haut, et puis recevoir la vie qui jamais ne peut être contenue dans de vieilles outres, pour reprendre une image évangélique. Donc quand Jésus rencontre Nicodème, c'est pour sa naissance. Quand nous lisons l'Évangile, quand nous rencontrons le Christ, c'est pour naître à notre humanité et à sa présence. Vous voyez, d'une certaine façon, en vous emmenant comme ça sur ces chemins d'Évangile, je vous dis en même temps que la vie spirituelle, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de naissance, d'être. Et puisque je vous disais que la vie, si vous voulez, c'est ce consentement à ce poème intérieur que l'on porte et qui nous porte, ben je termine cette intervention par un texte. Alors, c'est un texte que j'aime beaucoup. Moi, je l'ai mis dans le bureau, la petite salle d'attente, un peu comme un signe, quoi, ou comme un clin d'œil, je ne sais pas comment vous dire, enfin, bref. Je vous le lis et vous pourrez le prendre si vous voulez après. C'est un texte de Jean Malrieux, que je ne connais pas. Si vous le connaissez, vous me direz qui il est. Et alors, ce texte-là, si vous voulez, il a toute une histoire, justement. C'est un texte de naissance. C'est un texte aussi que j'ai, comment dire, trouvé dans la propre salle d'attente du psychanalyste que j'ai rencontré pendant pas mal d'années. Vous voyez ? Donc il y a des transmissions, quoi, qui se font comme ça, quoi. Donc je vous le laisse, et je vous le lis d'abord avant. Je pense que c'est un poème qui a des échos avec ce que je viens d'essayer de partager avec vous et ce que l'on a commencé de travailler ensemble hier, par groupe. Voici. Ne serait-ce qu'une fois, si tu parlas de liberté, tes lèvres, pour l'avoir connue, en ont gardé le goût du sel. Je t'en prie, par tous les mots qui ont approché l'espoir et qui tressaillent, sois celui qui marche sur la mer. Donne-nous l'orage de demain. Les hommes meurent sans connaître la joie. Les pierres, au gré des routes, attendent la lévitation. Si le bonheur n'est pas au monde, nous partirons à sa rencontre. Nous avons, pour l'apercevoir, les merveilleux manteaux de l'incendie. Si ta vie s'endort, risque-la. Arrêtons-nous là pour l'instant.